Alors, je cherchais un message, pardon, je cherchais un titre à ce que j'allais vous dire ce matin et je me dis, bon, voilà, mon titre c'est « Nous sommes les meilleurs ». C'est bien, hein ? « Nous sommes les meilleurs ». Il y a une chanson qui m'est revenue et qu'on entend parfois, une vieille chanson, mais ça va vous dire quelque chose, de Freddie Mercury. « We are the champions ». Vous connaissez ça, hein ? On est les champions, on est les meilleurs. Et je vous pose la question, se peut-il que dans l'Église de Jésus-Christ, nous pensions que nous sommes les meilleurs ? Est-ce que c'est possible ? En fait, l'idée, elle nous révulse peut-être. Hein, on se dit, ah, mais quand même, c'est pas possible. Hein, tel orgueil, hein, une telle pensée orgueilleuse. Mais le Seigneur veut qu'on soit vigilant. Vigilant sur nous-mêmes, hein, sur les dangers qui peuvent justement surgir de notre cœur. Hein, ces pensées voilà, qui montent de manière cachée et qui s'installent petit à petit. Et parfois, on n'arrive même plus à le voir, à le discerner. Alors pour nous mettre en garde et pour nous permettre d'être vigilants, Dieu nous rapporte plusieurs situations dans l'évangile de Luc. Et j'aimerais qu'on prenne l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 46. Pour commencer, Luc 9, verset 46. Et on va lire verset 46 à 48. Or une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Et donc le Seigneur nous a prévenu dans un autre passage que c'est du cœur, hein, c'est du cœur que montent les mauvaises pensées, monte l'orgueil, monte la folie. Hein. Cette pensée-là, elle est aussi dans notre cœur, elle peut aussi monter. Qui est le plus grand parmi nous ? Qui est le plus grand ? Et Dieu ne nous dit pas les choses au hasard, il ne parle pas de choses qui n'arrivent pas, qui n'existent pas, impossibles, mais il nous parle de justement ce qui est possible, parce qu'on est entaché du péché, parce que notre cœur est mauvais, alors ben, il peut y avoir des pensées comme cela qui montent en nous. D'abord, il faut relever que cette pensée d'être plus grand ou le plus grand, elle ne s'établit que vis-à-vis de nos égos. De ceux que nous estimons un peu à notre niveau. Les disciples ne se sont pas dit « Mais est-ce que je suis plus grand que le Seigneur ?» Ben non, c'était évident. Peut-être ils ne se disaient pas « Est-ce que je suis plus grand que ce mendiant-là qui n'a rien, qui est dans la rue ?» Ils ne se posaient pas la question. Mais par contre, on peut se poser la question vis-à-vis de ceux qu'on estime un peu à notre niveau, hein, qu'on regarde un peu comme nos semblables. Les apôtres se demandaient qui était le plus grand parmi eux. Et c'est la même chose pour nous. Parfois, ce n'est pas formulé, ce n'est pas dit clairement, mais sur un point de vue personnel, parfois un point de vue ecclésial dans une église, parfois professionnel aussi, hein, on peut se demander, mais qui est le plus grand ? Par exemple, une femme, même une femme chrétienne, elle peut se sentir plus importante, plus sainte, plus droite vis-à-vis d'une autre sœur. Elle ne le dit pas forcément, mais elle le ressent. Hein, elle se dit, oh, mais quand même, moi, je ne fais pas ce qu'elle fait. Hein? Ou moi, je fais au moins ça. Moi, j'agis de cette manière. Et finalement, sans poser la question, eh bien, c'est ça. Mais qui est la plus grande entre nous deux ? Qui est le plus grand ? Un homme, de la même manière, peut avoir des pensées comme cela. Là où la question ne se pose pas, il ne se la pose pas. Mais là où il pense que peut-être il y a une chance d'être un peu plus grand, eh bien parfois, ça peut monter dans son cœur, hein, ça peut surgir. Hein. Qui peut empêcher les pensées du cœur ? Voilà, hein, ça nous montre comme cela. On ne le décide pas. Qui est le plus grand parmi nous ? Parfois, c'est en tant qu'Église. C'est en tant que communauté. Qui est la plus grande, entre guillemets ? Qui est la plus proche du Seigneur parmi toutes ces communautés évangéliques qui aiment Jésus-Christ ? Qui est la plus attachée à la vérité ? Qui est la plus fidèle ? qui est la plus historique. Qui remonte à l'église primitive ? Ah, vraiment, c'est comme l'église primitive. On peut se poser ces questions. Et il y a peut-être une odeur nauséabonde, une odeur désagréable d'orgueil, finalement, qui monte jusqu'aux narines du Seigneur. Comme si Dieu regardait les uns plutôt que les autres avec beaucoup plus d'approbation, plus de satisfaction, plus de fierté. Ah, vraiment, ça c'est mon église. Ça, ce sont mes fidèles. C'est ceux qui marchent vraiment d'une manière droite. Et il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. S'il y a cette pensée dans le cœur, ben, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu aime tous ses enfants. Et quand il regarde son église, c'est son église de racheter, de naître de nouveau, bien sûr, hein, d'enfant de Dieu né de nouveau, et son église avec un grand E, l'église. Et donc ça ne peut pas lui plaire que de voir cette pensée émerger dans le cœur de ses enfants, qui est le plus grand. Alors Jésus va nous enseigner sur cette question, parce que c'est quand même quelque chose de récurrent. Si vous prenez l'évangile de Luc, là on est au chapitre 9, mais vous continuez au chapitre 22, ça revient. De nouveau, il y a cette question qui revient, mais Seigneur, qui est le plus grand finalement parmi nous ? Dans le chapitre 22, je vous lis, il dit « Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand ?» Et donc c'est un problème qui revenait, c'est incroyable, hein, mais le Seigneur a besoin de répéter. Comme à nous, il nous répète sans cesse les mêmes choses, parce qu'on oublie. Et donc, on a besoin de ces répétitions. Et donc, j'aimerais prendre un autre passage parallèle qui touche aussi ça. C'est l'évangile de Matthieu. Matthieu rajoute quelques paroles que le Seigneur a prononcées. Matthieu 18, versets 1 à 5. Il dit, « À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Là, on est dans l'évangile de Matthieu. Du coup, la référence est plutôt au royaume des cieux, hein, chose qui n'est pas dans l'évangile de Luc. Mais l'histoire est similaire. Et Matthieu rajoute quelques paroles que Jésus a répondues. Alors d'abord, Jésus place un petit enfant au milieu d'eux et puis il va leur dire trois choses. Premièrement, il dit, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc c'est une condition pour voir le ciel. Condition. La porte, elle est petite, elle est étroite pour venir au Sauveur. On peut même dire qu'elle est basse. Il faut se courber, comme quelqu'un qui disait, hein, ceux qui sont hautains et qui s'élèvent se tapent le front dans la porte. Il faut se courber, s'abaisser pour pouvoir la franchir, se faire un petit enfant. Et Jésus a dit qu'il faut être petit pour y accéder. Un petit enfant, c'est quelqu'un de simple, c'est quelqu'un de faible, c'est quelqu'un aussi de crédule. Il croit son papa et sa maman. Il a confiance en son papa et sa maman. Et Dieu demande à sa créature un acte de confiance, de lui faire confiance, de croire vraiment comme un enfant. Il y a beaucoup de choses qu'on accepte de croire un peu comme des enfants. Certains s'installent devant la télévision, ils regardent le journal télévisé, et puis ben, ils croient. Hein. C'est, voilà, ils l'ont dit, hein. C'est la vérité. Et puis, pour le peu que c'est quelqu'un qui a bien argumenté, qui a quelques diplômes, ben, il ne se pose même pas la question. C'est une évidence. C'est une évidence. Il croit. Par contre, quand il s'agit de croire Dieu, de croire ce qu'il dit dans sa parole, alors là, c'est difficile. Et là, on n'a même parfois même pas envie d'écouter, même pas envie de lire, parce qu'on ne veut pas, en fait, hein, de peur justement de se convertir. Mais Dieu nous demande de nous approcher comme un petit enfant, et de se convertir à Jésus-Christ. C'est-à-dire de changer de pensée. C'est ça la conversion, c'est un changement de pensée. On change complètement, on change dans notre vision de nous-mêmes, on change dans notre vision de Dieu, dans notre vision de Jésus-Christ, d'abord de nous-mêmes, nous ne sommes pas naturellement bons. Parfois on se dit, mais je suis quand même une bonne personne. Mais nous ne sommes pas naturellement bons. La Bible dit que nous ne sommes pas bons. Nous avons une nature qui est pécheresse, qui est corrompue. Et le péché habite en nous. Ensuite, Dieu n'est pas lointain. Il n'est pas un ennemi, quelqu'un qu'on doit fuir. Mais il est un ami. Et il est quelqu'un de proche. Il a envoyé son Fils mourir pour nous. Et donc Dieu veut qu'on se repente de nos péchés et qu'on se convertisse. On change de pensée, on change de direction. On arrête de faire les choses que nous savons qu'il désapprouve. Parce que nous le savons. Et qu'on commence à le chercher, lui, à s'attacher à lui. Jésus est mort, il a donné sa vie, il est ressuscité pour nous donner la vie. Jésus dit, si vous ne vous convertissez, eh bien, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Si vous ne devenez pas des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus ajoute, il dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et donc, là, Jésus répond directement à cette question des disciples. Mais qui est le plus grand ? Il dit, eh bien, c'est celui qui se rendra humble comme un petit enfant. Et c'est une disposition du cœur qu'on veut prendre. Hein. Il se rend humble. On prend cette direction de s'abaisser, de descendre. Qu'est-ce que c'est qu'un petit enfant ? C'est quelqu'un qui ne sait pas. Il ne sait pas tout. Et il sait qu'il ne sait pas. Il est donc plutôt dans une attitude où il reçoit, il s'interroge. L'adulte, lui, il peut avoir tendance à se dire, ben, il n'a plus rien à apprendre. Il sait. Il est éclairé. Il a la connaissance. Il a la révélation. Mais le plus grand, Jésus dit, c'est celui qui reste le plus petit, le plus humble. Et même s'il a compris certaines choses, il ne s'en sert pas pour se mettre en valeur et pour s'élever au-dessus des autres. Dieu nous dit, la connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. C'est beau ça. Si quelqu'un aime Dieu, alors celui-là est connu de lui. Et être connu de Dieu parce qu'on l'aime et parce qu'on reste petit devant lui. Le petit enfant, il ne sait pas. Il ne sait pas tout. Et il sait qu'il ne sait pas. Ensuite, un petit enfant, il est dépendant de ses parents. Entièrement dépendant. Et l'humilité, elle nous rend dépendants de Dieu, notre Père Céleste. On ne veut pas avancer si on n'a pas le feu vert. Si on n'est pas sûr que oui, c'est ça, Dieu le veut. Dieu est en train de me porter. L'enfant, il a besoin de l'approbation de ses parents. Il a besoin de savoir que son parent, il est là, qu'il veille sur lui et qu'il est avec lui. Et ça, c'est l'attitude que Dieu veut qu'on ait vis-à-vis de lui. Ensuite, un petit enfant, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'affranchir de l'autorité de ses parents. Après, quand il grandit, hein, à un moment, on veut s'affranchir. Hein. Mais un petit enfant, il ne veut pas s'affranchir de l'autorité de ses parents. Pendant les vacances, avec Kimberly, on a regardé une vieille série de feuilletons américains. J'avais jamais vu ça. C'est l'histoire d'un shérif avec son petit garçon dans un petite ville, hein, voilà, peut-être dans les années 60, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment amusant, marrant. Hein. Et donc, un jour, ce petit garçon de 4-5 ans, il vient voir son père et il dit « Pas, voilà, je veux partir de la maison. C'est décidé, je vais te laisser un mot dans lequel je te dis « je pars ». Puis il dit « Pas, et le problème, c'est que je ne sais pas écrire. » Ah, son père, il dit, oh oui, mince. Ah oui, ça c'est vrai que c'est un problème. Hein. Il dit, je sais, je vais t'écrire le mot. Oh, pas, tu ferais ça pour moi ? Ouais, je t'écris le mot. Bon, alors il s'assoit à une table et le petit garçon est tout content. Alors il commence à écrire, il réfléchit. Il dit, cher papa, aujourd'hui, je te quitte. Je pars de la maison et tu ne me reverras plus jamais. Et le petit, il commence à avoir une mine déconfite et dit, mais pas, moi je veux pas ça, Attends, je réfléchis. Et il continue. Mais pas, moi, je ne veux pas te quitter. Il se jette dans ses bras. Et c'est ça, en fait. Hein. Un petit enfant, il est attaché à son père. Il ne veut pas quitter son père. C'est son père. Et Dieu veut qu'on soit comme ça. Des petits enfants profondément attachés à notre père. Attachés à lui. C'est là le plus grand dans le royaume des cieux. Celui qui est petit, qui est dépendant de son père. Et il ne veut pas le quitter. Le plus grand, c'est celui qui est dépendant de son père. Ensuite, Jésus ajoute une troisième chose. Matthieu 18, verset 5, il dit « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Et si on peut revenir dans Luc, reprendre Luc 9, 48 qui reprend cette idée, on lit en Luc 9, 48 « Et il leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Que veut dire le fait de recevoir un petit enfant? Alors il faut se remettre dans le contexte de l'époque, à la fois dans le contexte historique, mais aussi de la culture de l'époque orientale. Et dans les temps passés, même en Occident, hein, les enfants n'avaient pas l'importance qu'on leur donne aujourd'hui. Les enfants, ben, c'était quantité négligeable. Hein. C'était vraiment voilà, ceux qui étaient mis de côté. On se souciait pas beaucoup d'eux. Ils n'étaient pas très importants. Et les enfants étaient par dizaines dans les rues. Ils couraient, ils traînaient. Ils n'avaient pas de valeur. Si un enfant mourait, ben voilà, c'est inexorable, c'est la vie. C'était comme ça. On voit aussi comment les disciples ont chassé les enfants qui étaient en train de tourner autour de Jésus. Allez, 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 comme une volée de moineaux, allez, boost. Et Jésus va justement prendre celui qui n'était pas important à leurs yeux, le petit, le faible, la quantité négligeable, celui qui ne sait pas, celui dont on ne fait aucun cas. Et il va dire, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, il me reçoit moi-même. Accueillir, prêter attention à celui qui n'est pas important. Celui qui n'a rien pour plaire, celui qui n'est pas élevé. Celui qu'on ne remarque pas, parce qu'il n'est pas dans notre champ de vision en fait. Hein. Quand j'étais aux États-Unis, donc on a rencontré beaucoup de gens. Hein, et un jour, une chose m'a marqué. C'était que certaines personnes nous saluaient et saluaient tout le monde. Ils saluaient nos enfants et ils nous saluaient. Et d'autres passaient au niveau des enfants et nous saluaient seulement, en fait. Et on le fait aussi ici, hein. C'est pas que là-bas. Hein. Mais voilà, c'est pas. On voit pas. Certains sont invisibles. On les voit pas. C'est quelque chose, ça, hein. Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et donc c'est se tourner vers celle qu'on oublie. C'est se tourner vers Jésus-Christ. Les accueillir, c'est accueillir Jésus-Christ. Et ça nous reprend. Ça nous reprend. Mais plus encore, Jésus dit, quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. On avance encore. Hein. C'est à la fois c'est Jésus-Christ, mais c'est Dieu aussi. Et donc, ne pas voir certains, ne pas s'occuper de certains, les regarder comme transparents, eh bien, c'est ne pas voir Dieu. C'est ne pas accepter Dieu, en fait. C'est ne pas accueillir Dieu. Pourquoi ? Parce que nous avons été faits à l'image de Dieu. Et Dieu veut qu'on se soucie de chacun. Et l'image de Dieu, elle se trouve dans le petit, dans le faible, dans l'oublié. Dieu ne se plaît pas dans les orgueilleux, il se plaît dans le petit enfant, ou celui qui est comme un petit enfant. Il dit, celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Waouh ! C'est quelque chose. Quand vous regardez Jésus, qui se met à genoux et qui se met à laver les pieds de ses disciples, lui, le Fils de Dieu, qui se met à genoux, il devient le plus petit en fait. Hein. Il se met en dessous, le plus petit. Ça nous invite, nous, à descendre, à nous abaisser et puis à regarder un peu plus les autres et les regarder comme au-dessus de nous-mêmes. Ensuite, l'évangéliste Luc enchaîne avec son récit, toujours en Luc 9. On a une deuxième situation possible. Il dit chapitre 9, versets 49 à 50. Jean prit la parole et dit « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. » Là, c'est un autre aspect, hein, toujours du même problème qu'est l'orgueil. Maintenant, quand on réfléchit à la scène, c'est quand même l'apôtre Jean qui parle, hein. Donc il est en train de parler au nom des 12, de lui-même et des autres, choisis par le Seigneur Jésus-Christ. Les 12 qui vont recevoir l'ordre de poser les fondements de l'Église de Jésus-Christ. Et on peut dire qu'ils étaient déjà en eux-mêmes les prémices de cette Église, la pure, la vraie Église. Et Jean, certainement conscient qu'ils étaient les apôtres choisis, les 12, voit quelqu'un qui ne les suit pas. Et il se dit, mais mince alors, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il fait son truc sans nous? Pas possible ça. Alors on peut imaginer que cet homme, cet autre disciple, était quelqu'un qui était resté peut-être un peu plus à l'écart, qui était moins visible, mais qui avait forcément suivi les débuts du ministère de Jésus, puisqu'il était en train de chasser des démons au nom de Jésus-Christ. Donc il n'était pas sous l'ancienne alliance, hein, il était déjà en train de regarder Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Messie venu. Peut-être qu'il avait entretenu une vraie relation intime avec le Seigneur, hein, un peu comme Nathanaël sous le figuier, où il avait une relation. Et maintenant, il a vu Jésus. Peut-être qu'il était derrière les apôtres, au premier rang. Il a vu Jésus, il a cru, et il veut faire du bien au nom de Jésus. Il veut servir le Seigneur Jésus-Christ. Et Jean le voit, il se dit, mais il ne nous suit pas celui-là, il fait son truc. C'est pas possible. Alors aidé des 11, il l'arrête et il l'empêche. Interdit. C'est interdit de faire ça. Et ce récit soulève un autre problème. C'est finalement de prendre la place du Seigneur lui-même. Et Dieu ne veut pas que on suive un homme, serait-il Jean, ou bien un autre, hein, mais il veut qu'on suive Jésus-Christ. C'est lui qui est important. Il faut suivre le vivant. Jésus a dit, « Suis-moi » à Lévi, fils d'Alphée. « Suis-moi ». Il n'a pas dit, « Suis Jean qui est avec moi » ou « Suis... » Non, « Suis-moi ». « Suis-moi », personnellement. Et c'est individuel. Dieu veut nous pousser chacun à une relation qui est personnelle, où on le suit lui. On n'est pas en train de suivre un homme. On suit Jésus-Christ. C'est ça l'important. Dans l'attitude de Jean, on devine déjà l'émergence d'un certain sectarisme. Nous sommes les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par nous qu'il faut passer maintenant pour servir le Seigneur Jésus-Christ. C'est nous qu'il faut suivre. Mais non. Suivre Jésus, c'est suivre Jésus. C'est ça l'important. Maintenant, si on suit vraiment Jésus, eh bien on va être dans une attitude de respect et d'amour mutuel vis-à-vis des autres qui suivent Jésus. Ça c'est important aussi, une attitude de respect et d'amour. Puisque le Seigneur a répondu à Jean, ne l'en empêchez pas. Car qui n'est pas contre vous est pour vous. Si c'est la même ligne, tout va bien. Tout va bien. Et cet homme, ce disciple, on peut dire, qui sert le Seigneur dans son coin, il n'est pas un ennemi. Jésus leur dit en quelque sorte, mais il fait ce que vous faites, il fait ma volonté. Il est en accord avec moi, dans ma volonté. Et donc, il n'y a pas de raison de s'opposer à lui. Et la réciproque est valable. La réciproque est valable. Lui ne s'opposait pas à eux et eux ne devaient pas s'opposer à lui. C'est ça qui est important, qu'il y ait une réciproque. Chacun servait le Seigneur. Maintenant, certainement, il y aurait eu un problème Si cet homme aurait été un peu comme un diotrèfle, entre guillemets, critiquant et s'opposant aux autres, en fait, s'opposant aux apôtres. Mais là, ce n'était pas le cas. Il n'est pas contre vous. Donc, tout va bien. Et on peut dire que l'Église de Jésus-Christ, elle est faite d'individus, elle est faite de groupes, elle est faite de dénominations qui font, normalement, s'ils sont nés de nouveau, une même œuvre et qui obéissent au Seigneur Jésus-Christ. Et chacun doit être libre de le servir dans la voie que le Seigneur lui trace. Il n'y a pas une tête autre que celle de Jésus-Christ. C'est lui qui est la tête. Il est la seule tête. Et la tête conduit son corps. Alors le Seigneur dit, mais ne l'empêchez pas. Occupez-vous de vous et suivez-moi. Suivez-moi. Et ça, ça invite vraiment à être prudent et modéré dans ses paroles. Quand on voit un autre disciple, un autre groupe, une autre dénomination, pas avoir une langue acérée, hein, et faire du mal, c'est inutile. Inutile. L'humilité, c'est accepter que l'on ne nous suive pas. Et puis Luc va donner une troisième situation, une circonstance qui reste un peu dans la même trame. C'est le même chapitre, verset 51 et suivant, jusque verset 56. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu du ciel descende et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Et là, c'est de nouveau Jean, encore, qui est impliqué avec son frère Jacques. Alors vous savez, il y avait une hostilité, hein, entre les Samaritains et les Juifs. Alors lorsque Jésus se présente dans cette ville des Samaritains avec ses disciples, habillés comme des Juifs, on ne le reçoit pas. Non, il n'y a pas de place pour toi ici. Le sang de Jean ne fait qu'un tour. Kanza, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu du ciel descende sur eux et les consume? Là, on voit un trait naturel de Jean. C'est surprenant, hein. Jean, qui était donc avec son frère, qui avait été surnommé Boanerges, fils du tonnerre. En fait, c'était deux hommes avec un caractère, quelque chose, hein, des fils du tonnerre. Et un autre aspect de l'orgueil, une autre facette, c'est le fait d'avoir la condamnation facile. Avoir la condamnation facile. Jean et Jacques se voulaient être les défenseurs de Jésus-Christ. C'est, voilà, on va les défendre. On va défendre notre Seigneur. Alors, ils prennent sa défense avec virulence. Ils sont même plus royalistes que le roi, plus durs que le juge. Verset 55, Jésus se tourna vers eux, les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Alors, ils allèrent dans un autre bourg. Et je pense qu'on devrait faire attention lorsque nous voulons défendre Jésus et défendre ses intérêts. Parce que la frontière est vite passée lorsqu'on se sent animé d'une colère. Alors nous, on va dire, c'est une sainte colère. Une sainte colère pour Dieu. Oula, hein, vite on bascule dans une colère qui n'est plus du tout sainte. Hein. Elle, pour nous, elle est sainte, mais elle n'est pas vraiment. C'est pas pour rien que Dieu nous a dit par Jacques, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. » Lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et la colère de l'homme, elle ne vient pas de Dieu. Elle vient du tréfond de notre chair, hein, de notre homme. Et la colère, ben, c'est un autre orgueil un autre visage, pardon, de l'orgueil, qui se sent supérieur, qui veut dominer, qui veut user de sa domination. Alors Jean, revêtu de son autorité d'apôtre, envoyé par le Seigneur, veut faire descendre le feu du ciel. Et Jésus lui dit, mais c'est pas là mon esprit. Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Il dit ailleurs, soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez pas condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Et c'est quand même extraordinaire. Jean, c'est celui qui a écrit l'évangile de Jean. C'est celui qui a écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Enfin, quand vous lisez ses épîtres, vous ne pouvez pas croire que c'est le même homme. Et c'est le même homme, ou c'est pas le même homme. Disons, c'est le même homme, mais qui s'est converti à Jésus-Christ. Il n'est plus le même. On dit l'apôtre de l'amour, de fils du tonnerre, l'apôtre de l'amour, et qui manifeste le plus l'amour. Hein. C'est beau aussi de voir ce que Dieu peut faire dans le cœur d'un homme et comment Dieu peut transformer une personne qui veut marcher avec lui et qui l'aime. Alors, pour conclure, sommes-nous les meilleurs? Non. Mais non, on n'est pas les meilleurs. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Parce que qui est le plus grand? C'est Jésus-Christ. Qui il faut suivre? Ben, c'est Jésus-Christ. Qui est en droit, qui a la responsabilité de condamner? S'il faut condamner, ben, c'est Jésus-Christ. C'est pas à nous. C'est pas à nous de tirer un trait. Pour nous, ce que le Seigneur veut, c'est qu'on soit petit, humble, comme des petits enfants, dépendants de notre Père, dépendants de son autorité bienveillante, le suivant fidèlement dans ce qu'il nous montre, dans ce que nous pensons être la vérité. Jésus est le meilleur. C'est pas nous le meilleur, c'est Jésus. Il est le meilleur. Et j'aimerais juste terminer avec une parole de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 4 et verset 5. Jésus dit, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due.